Ils viennent ici pour la première fois. Il y a des visages que je ne connais pas et donc je suppose, j'espère qu'il y a dans notre auditoire des nouveaux venus. Donc c'est la rentrée ce soir, la rentrée avec la première séance du séminaire école. Cette année en effet, nous reprenons la formule des deux séminaires, le séminaire école une fois par mois et en alternance le séminaire chant lacanien qui aura pour titre cette année « Faire lien social dans le capitalisme contemporain ». Je voulais remercier le conseil d'orientation qui m'a proposé d'animer cette première soirée et je suis contente de le faire. Voilà, donc je voudrais, avant de laisser la parole à nos deux intervenantes, Lydie Grandet et Agnès Wilhelm, et en guise d'introduction, commenter très rapidement le titre. La durée des analyses, ses raisons. Marc Strauss, dans le bel argument qu'il a écrit, insiste sur ses raisons, mais n'insiste pas sur les deux autres termes, la durée des analyses. Alors, je vais aller très vite puisque ça va être repris, les trois termes, durée, analyse et raison, je pense, tout au long de l'année. Mais tout de même, durée suppose qu'il y a une entrée qui ne correspond pas forcément aux premières rencontres d'un analyste et d'un potentiel futur analysant et des tas de types de sorties différentes qu'on sera peut-être amené à analyser. Chacune dans leur singularité, c'est bien ce que les analystes supposent, mais les analystes supposent aussi qu'il sera question de la psychanalyse. On ne peut pas, bien sûr, c'est indissolublement lié, pratique et théorie, mais finalement la durée des analyses et conséquences découle bien sûr de qu'est-ce qu'on définit comme psychanalyse. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste? Et donc d'emblée poser la question de la formation des analystes. C'est là-dessus que je voudrais, parce que peut-être que ce ne sera pas déplié au fil des années, dire quelques mots. Le titre fait bien sûr écho à un des derniers textes de Freud publié de son vivant, Analyse avec fin et analyse sans fin. Et je viens de le relire et il y a deux choses qui me paraissent frappantes. La première, c'est que s'il convient que les analyses thérapeutiques ont une fin, une terminaison, qu'ils repèrent comme le congé qui dure entre les deux protagonistes. Par contre, il insiste sur le fait que si l'on considère que la psychanalyse consiste en domptage des pulsions, celui qui choisit, de par le fait qu'il est analyste, de rester pris dans tout ce refoulé et dans les manifestations incessantes du refoulé, risque de voir se réveiller ses propres revendications pulsionnelles endormies ou domptées par sa propre analyse. Et c'est là qu'il insiste, en réponse à Ferenczi, qui lui est plutôt optimiste. Je voudrais quand même vous citer les deux petites... La phrase de Ferenczi qui viendrait définir... ce qui est requis de la formation du psychanalyste. Où est-ce que je les ai notés? En 1927, Ferenczi. L'analyse n'est pas un processus sans fin, mais peut, si l'analyste possède la compétence et la patience requises, être mené jusqu'à une conclusion naturelle. On a quand même là l'idée qu'il y aurait une conclusion naturelle. Ce qui supposerait qu'il ait suffisamment appris de ses propres errements et erreurs et qu'il ait soumis à son pouvoir, au pouvoir de l'analyse, les points faibles de sa personnalité. Et à cet optimisme de Ferenczi, Freud répond que non. Il y a un processus qui peut devenir interminable. Avant de laisser la parole à Lydie et parce que j'ai relu également avec beaucoup d'intérêt ce petit livre de Safouan qu'il a écrit 2 ans après la mort de Lacan, en 83, Jacques Lacan et la question de la formation des analystes, Safouan repère que dès 1949, cette question de la formation des analystes est très présente chez Lacan, donc bien avant même 1953, au moment où devait s'ouvrir l'Institut de psychanalyse de Paris. Et si en 1953, les boucliers se lèvent contre Lacan en pointant la non-orthodoxie de son invention des séances courtes, c'est une invention qui repose sur un fond théorique. Et là encore, la question des durées. Hein. Finalement, est-ce qu'il y a un lien entre la durée des séances et la durée des analyses, ou la fréquence des séances et la durée des analyses ? Safouan repère que quand il rédige les statuts de la Société psychanalytique de Paris en 1949, Lacan y introduit une nouveauté qui n'est passée inaperçue et qui touche à la psychanalyse personnelle, dirait Freud, comme didactique ou comme seule permettant l'accès à la didactique. Je cite Lacan, « L'élève, dès lors, est remis entièrement à la tutelle de son psychanalyste, qui l'engage en temps opportun à suivre les cours théoriques et les séminaires indiqués par la commission, et qui reste seul juge du moment clé où, en l'autorisant à entreprendre lui-même une analyse sous contrôle, il le fait revenir au regard de celle-ci. » Voilà, donc en 1949, Lacan insistait déjà sur la responsabilité de l'analyste par rapport au pouvoir des dits didacticiens. Alors ce soir, 2 interventions. La première de Lydie Grandet, notre collègue de Rodez, qui est encore pour une année analyste de l'école jusqu'en 2015. Janvier 2015. Sur l'annuaire, vous apparaissez comme 2015. Donc, qui arrive au terme de ces 3 années d'AE, qui va intervenir sous le titre « Il faut le temps ». Et ensuite, Agnès Wilhelm, de Paris, qui interviendra sous le titre « Les analyses qui ne durent pas ». Alors, je laisse la parole à Lydie. Je signale simplement qu'il y a un moment où elle préviendra Nicolas Bendrienne d'arrêter l'enregistrement pour des raisons de confidentialité.
Bonsoir à tous. Bon, peut-être que, avant de commencer, je dirais que c'est pas simple d'ouvrir le séminaire d'école. Bon, je remercie Colette de nous avoir fait cette introduction. Alors, j'ai choisi de donner pour titre à ce travail « Il faut le temps ». C'est une phrase que je prélève dans Radiophonie, la réponse à la question 4. Nous savons que très tôt, Freud déplorait la durée des cures analytiques, et pourtant alors elles étaient de quelques mois, et il concluait que l'inconscient ne connaît pas le temps. Aujourd'hui, dès qu'on dit psychanalyse, vient aussitôt l'idée d'un temps long, voire interminable. Lorsque quelqu'un prend rendez-vous fréquemment, l'intéressé demande d'emblée combien de temps ça va durer, combien de temps cela va lui prendre. Je crois que c'est à la fois conforme à notre monde contemporain qui fait du temps un avoir, avoir qui aurait sa valeur marchande. J'en veux pour preuve les plans d'épargne temps, instaurés dans certaines entreprises. On hypothèque son temps et on écarte les activités chronophages. Nous sommes entrés dans l'ère du temps réel, faisant oublier que sans doute chacun a affronté le réel du temps, de son temps, dont il ne sait rien. Nous sommes inondés de plans de lutte contre le vieillissement, et cependant, vieillir est une chance. J'ajouterai qu'il ne vieillit pas et mort. Alors, ces quelques remarques m'amènent à évoquer un point que je ne développerai pas davantage concernant la durée des cures, Je note qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a 20 ou 30 ans, les patients impatients ont beaucoup de difficultés à donner de leur temps pour leur analyse et accepter un rythme de séance soutenu hebdomadaire. Évidemment, s'ajoutent à cela des raisons économiques, liées notamment à la précarité de l'emploi des jeunes générations, aux déplacements, à la charge qui revient aux familles monoparentales, réalité dont nous devons tenir compte, je crois, et peut-être qui contribue à ce que les analyses s'étirent dans le temps. Se pose une question pour les analystes aujourd'hui. Doit-on écarter l'offre d'une analyse à qui ne peut pas s'engager à assurer au moins 2 séances par semaine, comme on me le disait récemment ? Bon, j'ai choisi toutefois pour cette première séance du séminaire école de considérer plutôt ce qui a changé dans l'orientation d'une cure analytique depuis et avec l'enseignement de Lacan. Le premier constat, qui me paraît évident, porte sur la fin de la cure. Une fin de cure, actuellement, n'a plus rien à voir avec ce qui était considéré comme fin de cure par beaucoup dans les années 80 et qui, sans doute, a conduit Lacan à la dissolution de son école. Première déclinaison du « Il faut le temps » dont j'ai fait mon titre. Il a fallu le temps, en effet, qu'accès soit donné au texte du séminaire, il faut le temps qu'il se travaille, et il faut encore le temps qu'opèrent les effets de transmission via les cures, spécialement sur la direction de la cure, l'orientation de l'analyste et l'acte analytique, puisque nous savons bien que la transmission de la psychanalyse ne se produit que par le biais de l'expérience. La plupart des patients qui se présentent à la PASS aujourd'hui témoignent de plusieurs décennies d'analyse, certes, mais souvent aussi avec des analystes différents. Qu'est-ce qui les a guidés, orientés dans leur choix de changement d'analyste ? Alors bien sûr, il peut y avoir des raisons qui sont liées à la contingence, par exemple les déménagements. Mais il y a aussi les avancées du mouvement analytique qui pointent des écarts d'orientation qui ne sont pas sans effet pour les analysants un peu avertis. Je veux dire, ceux qui s'intéressent aux textes, qui les travaillent et qui sont acteurs de leur analyse. Ce point est en lien avec les avancées du transfert et il est clair que selon les moments de la cure, les modalités du transfert varient. Il faut du temps, parfois, pour se rendre à l'évidence qu'on perd son temps, j'ajouterai, et son argent, hein, dans une analyse qu'on croit lacanienne, orientée donc à partir du dernier enseignement de Lacan, une analyse orientée par le réel, quand on prend la mesure que la cure est menée, je dirais, au nom du père. Je note que c'est souvent à la faveur d'une contingence que se produit cette, entre guillemets, prise de conscience. C'est là que je souhaiterais qu'on coupe l'enregistrement. Ma récente expérience dans le cartel de la PASS m'a permis d'entendre, grâce au passeur qui l'a relevé, le témoignage de cet analysant qui, constatant que son analyse était installée dans le ressassement et qu'elle ne touchait pas les points de jouissance en lien avec la répétition, c'est un « mais qu'est-ce que je fais là ?» qu'il avait décidé à s'adresser à un autre analyste qu'il considérait, disait-il, plus courageux. Il a fallu à Lacan le temps de penser la psychanalyse et formaliser ses fins. Dans les premiers temps de son enseignement, Lacan a centré ses recherches sur le symbolique et ses effets sur l'imaginaire, situant le sens au croisement de l'imaginaire et du symbolique. Alors, l'analyse avait pour visée la production de sens, parce qu'il est vrai qu'il y a une quête de sens dans toute demande d'analyse, et l'interprétation produisait du sens nouveau, illimité. Lorsque Lacan introduit la causation du sujet et le processus d'aliénation-séparation, s'ouvre un autre pan de son enseignement qui prend en compte la dimension du réel et ses incidences sur la direction de la cure, faisant de l'inconscient, je le cite, la coupure en acte entre le sujet et l'autre. L'avènement du sujet s'accompagne de l'opacité de l'être, et il reviendra à l'analyste de viser le réel, de, je cite, c'est dans Position de l'inconscient, cette palpitation dont le mouvement de vie est à saisir. Un analyste informé et mis en cause, soit s'éprouver assujetti à la refonte du signifiant. En 64, Lacan souligne mise en cause. Il me semble qu'ainsi se profile déjà la formalisation du discours de l'analyste dans lequel l'agent est l'objectita, l'analyste occupant la place de semblant d'objet. Le ressort du transfert devient l'attente de l'avènement de l'être du sujet en rapport avec le désir de l'analyste. À condition toutefois de prendre en compte la précision que nous donne Lacan quelques années plus tard, l'inconscient s'articule de ce qui de l'être vient au dire. Je souligne ce qui de l'être. Pas tout de l'être vient au dire, seulement une part que le terme par l'être fera résonner. La fin du séminaire 11 orientait déjà le désir de l'analyste vers l'obtention de la différence absolue, tranchant ainsi avec les fins de cure par identification à l'analyste, laquelle, il faut bien dire, venait souvent relayer les identifications du sujet mises à mal dans la cure. Dans Radiophonie, en 70, nous pouvons lire « Allaitant, il faut le temps de se faire à être ». C'est donc dans la réponse à la quatrième question. Lacan y souligne qu'il, je cite, « qu'il joue du cristal de la langue pour réfracter du signifiant ce qui divise le sujet ». Et il joue, en effet, il joue, je l'entends comme au sens de « introduire un bouger hein, ». Puisque les homophonies se bousculent, les temps et l'apostrophe « le temps », ne, ne et ne, ne ud, les mois et l'apostrophe le mois, le faux du temps et la faux du temps avec un X. Et bien sûr, l'équivoque falloir faillir qu'il fera jouer dans le séminaire 20 pour produire les catégories de jouissance. Alors, j'ai choisi de m'arrêter sur cette phrase « Mon épreuve ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille que produit les temps de se dire ». Je vous en propose une lecture. Il faut du temps pour qu'une analyse ouvre à se faire à des êtres. J'y souligne l'homophonie « naître » de naissance et « naître » en apostrophe. Nous pourrions aussi relever « l'être » et l'apostrophe et l'être est le de TRE. Puisque ce texte précède de peu le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant. Il faut du temps pour qu'une analyse ouvre à se faire à des êtres, et c'est une épreuve qui fait preuve. Le temps de se dire, c'est celui qui, avec la traversée du fantasme, donne chance au sujet de rencontrer ce qu'il s'est forcé de recouvrir concernant le sexe et la mort, la vérité et le savoir, ouvrant à l'acte et à la conclusion que la procédure de passe recueille. Donne chance parce qu'il y faut la contingence, qui, elle, par définition, ne se programme pas. Se faire à des êtres, c'est ce qu'un analyste se doit de supporter dans l'acte, puisqu'il n'est pas sujet lorsqu'il opère comme analyste. Heureusement, dans sa vie, il en va autrement. L'analyste, tel que Lacan le présente dans la note italienne, relève du pas tout et doit porter la marque d'un réel. Pour ce faire, nous dit Lacan, il doit avoir cerné la cause de son horreur, de sa propre, à lui, détaché de celle de tous, horreur de savoir. cela emporte des conséquences. L'aperçu du Saint-Homme permet de renouer autrement, réel, symbolique et imaginaire, et ouvre à la satisfaction de faim. Cependant, comme le faisait remarquer Colette Solaire, c'est du se dire perpétué que la jouissance qui se produit d'effet de texture trouve parfois à résister à la conclusion qui y mettrait un terme, le sujet ne s'instruisant qu'au prix d'un renoncement. C'est dans le texte Le plus de temps dans Hétérité. Numéro 3. Prendre acte de l'impossible oblige en effet à renoncer à l'impuissance, laquelle fait croire à impossible. Sans doute cela contribue-t-il à ce que les analyses soient aussi longues. Pour terminer et ouvrir à la discussion, j'aimerais évoquer un point dont on ne parle plus beaucoup dans nos rencontres d'école, celui des entretiens préliminaires. Ils sont pourtant la clé de l'entrée dans le discours analytique et ils exigent la présence du psychanalyste. En quoi les avancées sur la fin de la cure et ses suites ont des incidences et emportent des modifications ou pas sur les exigences quant aux conditions d'entrée ? Pourrait-on faire l'hypothèse que le style des entretiens préliminaires conditionne la durée des analyses et l'éternisation du transfert ? Il me semble que la réponse est évidente quand il n'y a pas d'entrée dans le discours analytique et qu'on en reste à ce que Lacan appelait l'armature des bons sentiments, désignant ainsi les psychothérapies. J'interroge, y aurait-il un lien entre la manière de conduire les entretiens préliminaires et les cures qui peinent à se conclure ? En quoi l'apport de Lacan avec les nouages borroméens et la passe par le borroméen généralisé toujours recommencé comme finalité de cure modifie-t-elle ce qui est à mettre en chantier dans ce temps des entretiens préliminaires ? Je vous remercie.
Merci Lydie, merci de mettre l'accent donc dès la première intervention sur les exigences quant aux conditions d'entrée, et ça me paraît extrêmement important et j'espère qu'on pourra en discuter, et également sur ta formule de l'analysant averti, l'analysant acteur dans l'analyse, et ça me faisait penser à la phrase, pour Freud, il y a deux, il y a l'analysant qui est passif et l'analyste qui est actif. Et Freud souligne bien que le danger, c'est pas tant pour le passif que pour l'actif, pour l'analyste. Et donc je suis contente que tu signales que l'analysant est acteur dans sa cure. Je passe la parole donc à Agnès Wilhelm avec son titre « Les analyses qui ne durent pas ». Jean-Jacques Gorog n'est plus là ou il n'est pas là ?
Je peux le tenir.
Merci, ça ouais, tient. C'est
envisager la durée, c'est concevoir la fin. Tant que ça dure, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est la fin qui donne la clé de la durée. On ne connaît jamais à l'avance le temps que durera une analyse ou une histoire d'amour. En effet, le discours analytique comme le discours amoureux sont des discours non établis, non prescriptibles, indéterminés. Pour me préparer à réfléchir sur la question de la durée des analyses, j'ai lu en particulier deux revues du champ lacanien, le numéro 7 sur le temps dans la psychanalyse et le numéro 12, l'analyse, ses fins, ses suites. Dans ma lecture, j'ai constaté que nombre de contributions abordaient la fin du processus analytique, la phase finale qui permettait de dire qu'une analyse était finie. Il était peu question des analyses qui ne durent pas jusqu'à la fin. C'est pourtant une réalité clinique qui n'est pas rare, du moins dans mon expérience. C'est ainsi que, m'apprêtant de répondre à la question « Pourquoi les analyses durent longtemps ?», je me suis penchée sur la question des analyses qui ne durent pas. Les analyses interrompues, arrêtées par le choix volontaire de l'analysant, qui met fin à l'expérience sans en attendre la fin. Cet arrêt relève d'une décision du sujet, le plus souvent après obtention d'effets positifs qui ont effacé l'objet de la plainte initiale, fait disparaître un symptôme gênant, produit un changement, un soulagement, un mieux-être. La décision d'arrêt est maintenue par le patient malgré les objections de l'analyste. Qu'avons-nous à apprendre de ces analyses interrompues ? Je pense à l'exergue de Winnicott dans Jeu et réalité, à mes patients qui ont payé pour m'instruire. De quoi les patients qui arrêtent leur analyse peuvent-ils nous instruire ? Nous savons que chaque analyse est unique, du fait de la particularité du sujet. Et cependant, chacune suit les étapes logiques d'un processus qui, lui, n'est pas particulier, mais déterminé par la structure. Si le temps d'une analyse n'est pas calculable, les étapes du parcours sont identifiées, en particulier trois d'entre elles, l'entrée, le déroulement et la phase finale qui mène à la fin. Les analyses arrêtées que j'évoque sont celles où l'arrêt se situe en cours du processus, pendant son déroulement, qui se voit interrompu avant la phase finale. L'arrêt est l'effet d'une volonté du sujet et non pas le constat de l'aboutissement d'un processus amenant la fin. La volonté d'arrêter n'est pas déduction de fin. C'est une interruption que l'analyste juge trop précoce, prématurée, dans un processus cependant installé. J'évoque ici des analyses qui ont quand même duré et non les feux de paille de quelques rendez-vous. Qu'est-ce qui a décidé de cette issue prématurée ? L'analysant est-il seul en cause dans cette décision ? Y a-t-il une responsabilité qui incombe à l'analyste ? Sa direction de la cure est-elle en cause ou son désir ? Arrêt ou fin ? J'ai fait moi-même l'expérience d'arrêter mon analyse. Lassé de longs mois de séances ternes et ennuyeuses, je croyais que c'était la fin. Et l'arrivée de l'été a fini de m'en convaincre. Après plus d'un an, à la suite d'un événement somme toute banal qui m'avait ébranlé, j'ai repris l'analyse et j'ai ensuite pu faire la différence entre décider de l'arrêt et constater, acter la fin. La chute des identifications comme l'aperçu du fantasme, de sa fonction de voile imaginaire, n'est pas encore la rencontre et la reconnaissance du réel dans sa crudité, dans sa nudité non voilée, sans recours possible à l'autre. Ces deux périodes de mon analyse, très différentes dans leur durée, mais aussi dans leur dynamique respective, me paraissent maintenant être un tout. J'en conclus que certains arrêts sont provisoires à l'insu du sujet et de l'analyste. Leur suite est potentielle, en germe. À propos de germe, je me rappelle de la prégnance de la métaphore de l'oignon dont l'analyse détachait progressivement les couches au cours de la première et longue période de mon analyse. L'image de l'oignon incluait l'idée du germe central, le Kern unseres Wesens de Freud. Lors de la seconde période, s'est imposée l'image d'une boucle, d'un tour, avec un vide central, que j'ai retrouvé avec un certain trouble des années plus tard dans les schémas du séminaire 9 de Lacan. Le tour est un tore, fait des tours répétés de la demande qui cernent un désir insaisissable. Pas de germe central, mais un trou, une faille. Faille du sujet, est-ce barré, et faille dans l'autre, est-ce de grand abarré, qui désigne le défaut, le manque dans la structure, imposé par la structure. Le désir de l'analyste est peut-être désir de ne pas couvrir la faille, de tenter de ne plus s'en détourner, de la maintenir ouverte et non couverte, c'est-à-dire vivante, et désir d'être là pour celui qui veut s'en approcher, qui veut voir ça pour savoir. Pourquoi certaines analyses s'arrêtent-elles en chemin ? Nous ne pouvons pas en généraliser les raisons, puisque c'est au cas par cas qu'il faudrait saisir les motifs et le moment de l'arrêt. L'expérience analytique prend sa force du particulier. J'ai cru, au début de ma réflexion, pouvoir dégager de mon expérience une raison générique à ces arrêts. Par exemple, que dans ces cas, la demande thérapeutique était plus forte que le désir de savoir. Mais ça se révèle être une impasse. Désir thérapeutique et désir de savoir sont nécessairement liés pour tout sujet qui s'engage dans une démarche analytique. Il n'y a pas deux catégories de patients, ceux qui veulent guérir et ceux qui veulent savoir. Il nous faut donc nous tourner vers le déroulement de la cure. Premier point, la fin est à rapporter au début. Un arrêt précoce peut nous faire reconsidérer l'entrée dans le processus. A-t-elle vraiment eu lieu ? Était-ce une vraie demande d'analyse ? Quelque chose a peut-être été escamoté à l'origine de la demande. N'était-ce pas plutôt une demande thérapeutique à laquelle l'analyste a répondu ? Lacan écrit dans la direction de la cure, « On sent ici la tentation brûlante que doit être pour l'analyste de répondre, si peu que ce soit, à la demande. » Je rappelle les indications de Lacan dans cet écrit pour les entretiens préliminaires au début de la cure dont Lydie parlait. D'abord, introduire le patient à un premier repérage de sa position quant à la réalité qu'il accuse. Lui montrer qu'il n'y est que trop bien adapté puisqu'il concourt à sa fabrication. Pour poursuivre, refuser le face-à-face. J'ai été frappée par la force de ces formulations qui n'engagent pas à la complaisance. Refuser le face-à-face, c'est bien autre chose que proposer aux patients de s'allonger. N'arrive-t-il pas que nous en fassions plutôt une invitation ou même une promotion, si bien qu'on croit que l'analyse a commencé ? Ou alors, est-ce plus tard que le maniement du transfert a échoué ? Deuxième point. À l'origine de la rencontre avec un psychanalyste, il y a une demande de soulagement. Le sujet veut être allégé de ses symptômes, de ses inhibitions, de ses angoisses. L'instauration du transfert, qui repose sur une supposition de savoir attribuée à l'analyste, doit ouvrir le sujet à la question de ce qu'il peut lui-même savoir de ses symptômes, de ses répétitions, de son inconscient. Si le savoir supposé à l'analyste est la condition de l'opération du transfert, un renversement doit se produire. Le maniement du transfert par l'analyste vise à révéler au sujet que c'est l'inconscient qui sait, qui recèle ce que lui-même ignore ou ne veut pas savoir. En lieu et place de la réponse attendue de l'analyste, c'est de la réponse analysante que peut émerger un savoir insu, surprenant, dont le sujet pourra se saisir pour élaborer son histoire. La position subjective change lorsque le sujet se met en quête de savoir. Ça prend parfois la forme d'une enquête, d'ailleurs. Lorsque la recherche se substitue à l'attente d'un savoir donné par l'autre, il y a un gain d'émancipation, une levée d'inhibition, un changement de position dans le monde. Ce gain peut être satisfaisant pour un sujet qui, dès lors, ne souhaite plus poursuivre son analyse. Et pourtant, ce n'est pas la fin. L'analyste le sait. Émancipation n'est pas chute du sujet supposé savoir. La croyance en l'autre est maintenue, parfois déplacée sur des nouvelles figures ou d'autres espoirs. Tant que cette espérance n'a pas reconnu la faille irrémédiable de l'autre, est-ce de grand tabaret, elle ne prend pas fin. Seule la prise en compte du réel met fin à l'espérance et aboutit à la destitution du sujet supposé savoir. Ce n'est pas qu'il n'a jamais été rencontré ce réel, imprévisible mais inévitable dans une existence. Mais l'aperçu, le choc, a été recouvert. C'est la fonction principale du fantasme. Le dégagement du fantasme fondamental et sa traversée sont les conditions sine qua non à l'acceptation sans recours du hors-sens du réel, de l'irrémédiable de la castration. L'arrêt de l'analyse n'est pas la butée sur le réel comme impossible, mais son évitement. Il n'est pas une sortie de la répétition, mais un aménagement. Je vais citer Lacan dans Les non-dupes R, leçon du 13 novembre 1973. L'inconscient est un savoir dont le sujet peut se déchiffrer. Il le déchiffre, celui qui, d'être parlant, est en position de procéder à cette opération, qui y est même jusqu'à un certain point forcé, jusqu'à ce qu'il atteigne un sens. Et c'est là qu'il s'arrête, parce qu'il faut bien s'arrêter. On ne demande que ça tout de même, on ne demande que ça parce qu'on n'a pas le temps. L'inconscience est un savoir dont le sujet peut se déchiffrer. L'arrêt est prématuré lorsque le sujet suspend l'expérience analytique sans avoir découvert la fonction de l'heure de la vérité qu'il a déchiffrée, qu'il a élaborée grâce à cette expérience même. Il a trouvé un sens, il met un terme à son élaboration, non parce qu'il a rencontré le signifiant du manque dans l'autre, est-ce de grand tabaret, mais parce que le point où il est arrivé lui convient et qu'il espère, en arrêtant l'analyse, le fixer. Il quitte la position analysante pour se rendre maître du savoir acquis. Fixation à un « je sais », alors que la fin d'analyse, c'est le savoir d'un non-savoir et d'un savoir y faire avec. Le bon sens ne peut pas critiquer cette volonté de stabiliser l'amélioration obtenue. Il s'étonne plutôt du contraire, de ce qui pousserait à continuer. Comme nous le rappelle Marc Strauss dans l'argument de ce séminaire école, « Tu y es encore ?» L'analyste a-t-il tenté de contrer ce bon sens, au risque de le confirmer, plutôt que de pointer son doigt vers l'horizon déshabité de l'être où doit se déployer la vertu allusive de l'interprétation. Troisième point, si l'analyse produit des effets positifs, effets de soulagement quant aux symptômes ou effets de relance du désir inhibé, elle produit aussi une vacillation des assises subjectives avec la chute des identifications et des idéaux. L'analyse entame le moi et révèle au sujet ses manques dans le temps même où il découvre la fonction illusoire de certaines convictions qui le tenaient et auxquelles il avait tenu jusque-là. L'arrêt de l'analyse peut correspondre à un calcul pour fixer le gain obtenu dans l'intuition de la perte que supposerait la poursuite. Le sujet préfère en rester là, bien qu'il sache non pas qu'il y a un aboutissement par le réel, ça c'est un savoir qui ne se sait pas d'avance mais qui s'expérimente, mais que ça pourrait continuer. Peut-être d'ailleurs pense-t-il que cela continuerait indéfiniment et que là encore il faut bien s'arrêter. L'arrêt est-il un refus d'aller plus loin, un point de satisfaction ou un impossible qui dépasse le sujet, un point de fixation d'une jouissance inconsciente? Satisfaction et fixation sont sans garantie contre la mauvaise rencontre du hasard de la vie, ni contre le retour du réel du symptôme qui pourrait ébranler le sujet et peut-être transformer l'arrêt en nouvelle demande d'analyse. Pour conclure, diriger la cure et non diriger le patient. C'est du même écrit, la direction de la cure. Il paraît évident que le déroulement d'une cure et donc son arrêt met aussi en cause la position de l'analyste. Quelle partie joue n'a pas joué l'analyste dans une décision d'arrêt? A-t-il été en place de semblant d'objet pour se faire l'agent d'un discours qui ne serait pas du semblant, comme le formule Jacques Adam dans sa contribution à la dernière journée internationale d'école? C'est le contrôle qui peut éclairer l'analyste sur sa partition. Ma position s'est modifiée au cours de la réflexion que je vous expose ce soir. Je pensais plutôt que les analyses arrêtées en cours de processus étaient un échec de l'analyste. J'y voyais même la raison du silence relatif dans les contributions de l'école. Nous n'aimons pas exposer nos échecs. Bien que ce soit une démarche freudienne que de partir du ratage pour en tirer un enseignement. L'arrêt est-il un ratage ? Je ne le pense plus. Ne pouvons-nous pas reconnaître une valeur aux analyses arrêtées, une valeur thérapeutique, une valeur de changement ? L'arrêt avant la fin ne peut pas produire un analyste, ça c'est certain. Mais la visée première de l'analyse, c'est de transformer la vie, de permettre un changement dans la vie d'un sujet. L'expression « être en arrêt » contient l'idée d'une halte, une suspension, et comporte aussi l'idée d'être sur le qui-vive. Rien de définitif, donc. Le discours analytique est un discours optionnel pour l'analysant. L'entrée dans ce discours, comme la sortie, relève du choix du sujet. La poursuite de l'analyse se prolonge tant que le sujet en maintient l'option. La décision d'arrêter est décision de lever l'option prise, c'est-à-dire de sortir du discours analytique, du moins pour un temps. L'analyste sait d'expérience qu'il y a une issue par la fin, puisqu'il l'a trouvée pour lui-même. Ce savoir n'est pas transmissible, il n'est pas non plus une vérité supérieure, comme on parle d'intérêt supérieur de l'enfant, du patient, qui pourrait être ordonné. L'analyste ne peut que faire l'offre de continuer, de se maintenir à sa place dans le discours analytique. Il peut donc dire à son patient « ce n'est pas la fin », mais il me semble que s'il lui dit « vous avez tort », il quitte le discours analytique pour son envers. Je vous remercie.